Le goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé,
amer,
sucré,
ça pique,
fumé,
gras,
pétillant,
umami.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Si on goûte là comme ça un tout petit morceau de feuille crue,
eh ben on va faire une petite grimace. Une petite grimace liée à l'amertume.
Ça pince.
C'est vraiment amer. Hein. Mais on sent. On sent les arômes. Il n'y a pas que de l'amertume.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 3.
Amer.
Avec l'amertume, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Lorsqu'un jeune enfant croque dans une endive ou boit un jus de pamplemousse, il fait forcément la grimace, alors que l'adulte, lui, aime se frotter au frisson amer d'un cocktail Negroni ou d'une tasse de café. D'où ces interrogations, faut-il un apprentissage pour apprécier l'amer? Quel rôle joue-t-il dans l'équilibre des saveurs? Et au fait, sommes-nous tous égaux devant ce goût complexe? L'amer, j'irai aussi le glaner aux portes de Paris, au cœur du bois de Vincennes, en compagnie d'un cueilleur urbain spécialiste des plantes comestibles. De l'amer encore dans un cocktail remuant avec une virtuose de la gastronomie liquide. Et on verra comment l'amertume a imprégné la langue française avec notre linguiste Aurore Vincenti. Je vous rappelle la recette de Saveurs Savantes. Un tiers de cuisine, un tiers de science, un tiers de culture. On mélange bien dans un shaker avec un soupçon de cinéma, une pincée de littérature et on obtient un délicieux cocktail de savoir et de saveur à boire bien frais pendant tout l'été. Entamons notre enquête autour de cette première énigme. Aurions-nous une aversion innée pour l'amertume? Réponse avec Gabriel Lépouzé, l'un des deux scientifiques qui nous accompagne tout au long de cette série. Il est neurobiologiste à l'Institut Pasteur et fondateur de l'École du Nez.
Saveur savante. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Les composés amers, quand ils sont pris isolément, de manière innée, ils sont associés à une valence négative, un rejet, un évitement, une aversion. On n'aime pas ça. Et c'est une faculté qui est vraiment innée, inscrite dans notre génome. L'ensemble des mammifères partagent ensemble cette aversion pour l'amertume qui se manifeste par une grimace très caractéristique. On ouvre la bouche, on tire la langue, on a une sensation de nausée pour extraire ce composé qui est dans notre bouche. Pourquoi ce réflexe? Il y a une explication, une théorie derrière ça, c'est que beaucoup de composés qui sont amers sont potentiellement toxiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a comptabilisé à peu près 1000 composés amers différents. Les auditeurs sont invités à aller regarder sur la base de données Bitter Database pour voir ces composés-là. 1000 composés dont on estime que à peu près 60% auraient une toxicité notable, ce qui signale quand même que l'amertume est associée à cette toxicité potentielle, il faudra dire. On a cet instinct de survie qui nous est permis par ces récepteurs à l'amertume qui se trouvent dans notre langue, au niveau de nos papilles gustatives. En fait, aujourd'hui, dans notre alimentation, il n'y a plus rien de toxique. C'est pour ça qu'il faut désapprendre ce réflexe inné de rejet de l'amertume pour essayer de rechercher les valeurs saines et intéressantes qu'il y a dans l'amertume du point de vue de la cuisine et de son association avec d'autres saveurs.
Et si on se mettait dans la peau des chasseurs-cueilleurs qui se sont risqués il y a des milliers d'années à la morsure amère de certaines plantes sauvages nécessaires à leur alimentation? Je vous propose de tenter l'expérience à une poignée de stations de métro du centre de Paris. J'ai rendez-vous avec mon guide. Il s'appelle Christophe Dehaudy, il est botaniste et naturopathe et il a fondé les Chemins de la Nature pour former les citadins à la cueillette des plantes sauvages et comestibles. Son terrain de jeu préféré, c'est le bois de Vincennes.
C'est là qu'il y a le plus d'espace un peu laissé, où il y a les plantes sauvages qui poussent, où il y a différents milieux avec de l'eau, un peu forestier, un peu prairie, ce qui fait que c'est assez riche en biodiversité.
Donc beaucoup de plantes comestibles tout autour de nous, la plupart d'ailleurs sont parfaitement ignorées par les promeneurs.
Bah oui, c'est dommage parce qu'elles sont riches en parfums, elles sont riches en bienfaits, et puis elles sont belles.
C'est tout un patrimoine qu'on a un peu laissé derrière nous.
Exactement, ça fait maintenant 10 ans que j'ai fondé le Chemin de la Nature pour transmettre la connaissance des plantes sauvages, comestibles et médicinales et des champignons. Donc on propose du contenu en ligne, mais aussi sur le terrain, voilà, où j'amène les gens dans la nature, observer, apprendre à cueillir, apprendre ensuite à utiliser, à la fois en comestible et puis pour se soigner.
Alors là, on bifurque un peu, on est carrément sur un tout petit sentier en terre.
On bifurque un peu, ouais, parce que j'ai quelques plantes en tête.
Ah,
des plantes amères.
Alors là, vous lâchez un mot,
qui peut faire un peu peur. L'amertume, même dans le vocabulaire courant, c'est quand même pas un nom qui désigne un sentiment ou une sensation très réjouissante. C'est quoi notre problème avec les plantes amères ?
Bah, c'est qu'on a perdu l'habitude. On a perdu l'habitude parce que les légumes cultivés, à force d'être sélectionnés, bah, sont quasiment plus amers, à part certaines exceptions. Mais il faut savoir que l'amertume, déjà, elle est plus ou moins forte en fonction des plantes. Et elle va pas forcément cacher tous les parfums, tous les arômes qu'il peut y avoir dans une plante. Et parfois même, elle s'associe avec ses parfums et elle les révèle. Elle leur donne du caractère. C'est-à-dire que l'amertume, en tant que telle, dans la plante, elle peut être plus ou moins forte. Après, c'est aussi au cuisinier de la gérer, quoi.
On pourrait penser qu'on n'est pas très loin de la ville et que par conséquent, pour des raisons de pollution, il n'est pas très prudent de cueillir des plantes sauvages, gaz d'échappement, etc. Qu'en est-il ?
Une règle à respecter au maximum, c'est s'éloigner des routes. Et dans l'idéal, qu'il y ait des arbres entre la route et la cueillette. Et ensuite, ce que je conseille aussi, c'est de varier les endroits de cueillette. C'est-à-dire pas toujours cueillir au même endroit, au cas où.
Il y a aussi des chiens.
Oui, et par rapport aux chiens, et aux animaux en général, hein, il y a des petits risques de parasites aussi. Dans ces cas-là, il faut s'éloigner au maximum des chemins, privilégier les plantes en hauteur, et si on a le moindre doute, cuire. 10 minutes de 60 degrés à 100 degrés, et 1 minute de 100 degrés à plus.
Alors là, on est dans une espèce de petite clairière, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous cherchez ?
Alors là, je vois une plante amère, mais excellente, qui s'appelle la bardane.
Waouh !
Et au printemps, elle est au stade de feuilles. C'est des grosses feuilles, ça ressemble un petit peu à la rhubarbe, mais il n'a pas du tout le même goût. La rhubarbe, c'est acide et plutôt sucré. Là, on est sur un goût amer, mais avec des arômes d'artichaut et
wow.
De cardon. Donc pour l'identifier, la bardane, elle est verte sur le dessus, elle a des grandes feuilles, et en dessous, il y a comme des poils cotonneux blancs appliqués sous la feuille.
Comme une espèce de petit duvet, en fait.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui se mange ? La feuille, la tige ?
Tout se mange dans la bardane. Il suffit finalement de la faire bouillir dans l'eau, à grande eau, en moyenne 3 minutes, 4 minutes. Mais ne retenez pas forcément la durée, goûtez. Laissez bouillir 2 minutes, goûtez un petit morceau. Si c'est encore trop amer pour vous, laissez bouillir encore un peu, goûtez à nouveau. Et dès que c'est ok pour vous, c'est que c'est prêt. Vous pouvez les consommer ensuite directement, c'est-à-dire vous les sortez. Vous les égouttez, vous les mettez dans l'assiette, c'est encore chaud. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive ou un petit peu de beurre salé et vous vous régalez avec un petit filet de citron. Il faut savoir que le citron aussi se marie bien avec l'amertume. Ça fait une bonne association pour la diminuer un petit peu. Et sinon, vous pouvez les faire revenir à la poêle, vous pouvez en faire des soupes, vous pouvez les laisser refroidir et puis en faire des sauces froides, des sauces chaudes. Très sympa.
Si on goûte là comme ça un tout petit morceau de feuille crue,
eh bien on va faire une petite grimace. Une petite grimace liée à l'amertume.
Ça pince.
C'est vraiment amer. Mais on sent les arômes. Hein. Il n'y a pas que de l'amertume.
Très beaux arômes végétaux, un peu de douceur aussi. Hein.
Mm-hmm.
On poursuit la balade ?
C'est parti. Alors, est-ce qu'on va trouver du pissenlit ?
Il y a des orties.
Et il est où le pissenlit ? Là, il y a un beau pissenlit. Un beau pissenlit, et pas que. Il y a plusieurs plantes du même groupe. La famille du pissenlit, c'est la famille des astéracées, dans laquelle il y a aussi la pâquerette, la marguerite, la bardane qu'on a vu tout à l'heure. Et puis au sein de cette famille, on va dire qu'il y a les salades, qui ressemblent un peu au pissenlit. Et il y en a pas mal. Parce que dans ce groupe, tout se mange. Donc dans ce groupe des pissenlits, c'est-à-dire des plantes qui ressemblent un peu au pissenlit, qui vont avoir un latex blanc. Quand on casse la feuille, on va avoir un lait blanc. D'ailleurs, la laitue a ça aussi. Laitue. Ça vient du fait qu'il y a un latex blanc. Et il y a d'autres plantes, comme le laitron, qui se mange aussi. Il y a la lampsane, là, juste à côté. Et voilà, et toutes ces plantes vont avoir de l'amertume, mais aussi des parfums intéressants qui rappellent des parfums de laitue romaine, d'endive, de chicorée. Très sympa. Ça se mange cru. En salade, traditionnellement c'est ce qu'on fait au début du printemps, mais ça se mange aussi cuit. On a moins l'habitude, mais on peut cuire toutes les plantes qui sont mangées en salade. On peut les cuire finalement plein de manières différentes, hein, mijoter un peu dans la poêle. Moi, j'aime bien mélanger avec des petits fruits de saison, une petite sauce au vin aussi, ou tout simplement juste laisser suer avec un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre, et puis c'est trop bon.
Dans les campagnes, il y a ces traditions de salade au pissenlit avec un morceau de lard, un œuf mollet, en Alsace par exemple.
Mmh. Ouais, complètement. Bah, moi, j'ai été élevé à ça. Hein. Salade de pissenlit au printemps avec lardon, œuf mollet, petit crouton. C'est vrai que c'est délicieux.
Est-ce que toute personne qui s'intéresse à la cueillette peut venir librement se servir au bois de Vincennes, ou il y a une réglementation ?
C'est toléré en petite quantité, les petites herbacées. Mais il faut bien faire attention à ne pas aller dans les endroits plantés, plus paysagers, et surtout pas couper des branches d'arbres, tout ça, ça c'est interdit. Parce que la règle numéro 1 du cueilleur, je ne l'ai pas dit, attention, c'est de ne cueillir que si on est sûr, à 100% si ce n'est plus, d'avoir bien identifié la plante avant de la cueillir pour la consommer. Ça c'est très important, parce qu'il y a des plantes toxiques. Hein. On a parlé de plantes comestibles jusque-là, mais il y en a qui sont très toxiques, et une petite quantité peut vous tuer. Il y a à peu près en France 300 plantes toxiques. Parmi ces 300 plantes toxiques, il y en a 150 qui sont mortelles. C'est-à-dire qu'une petite quantité vous tue rapidement. Donc là... La règle de base est à respecter, et puis pour apprendre, moi je conseille vraiment d'y aller petit à petit, d'être sûr à chaque fois de ce qu'on apprend, et puis d'en ajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, de faire du terrain avec des gens qui s'y connaissent, de varier un peu les supports pédagogiques, acheter un petit livre, regarder des vidéos, et puis en cumulant tout ça, on apprend assez vite. Et puis c'est le plaisir, hein. Le plaisir, la passion. Moi je remarque, ceux qui apprennent le plus vite, c'est ceux qui sont passionnés, qui adorent, qui prennent plaisir. C'est la base pour moi. Bon, je vous invite à boire un petit café pour avoir l'amertume de la caféine.
Avec plaisir.
Allez.
France Inter. Saveur savante.
Amère.
François-Régis Gaudry.
A Rush and a Push and the Land is Ours, signé du groupe anglais The Smiths, un titre de 1987 qui excite comme un bon café du matin.
Saveur savante sur France Inter.
En plus de la caféine, l'amertume aurait-elle cette capacité de nous tenir en éveil ?
Je pense que là, on touche du doigt cette capacité de la saveur amère, justement, à nous mettre en éveil, à nous mettre en alerte, à nous rigidifier un petit peu. Et un bon exemple pour comprendre ce caractère tonifiant d'une boisson amère, c'est l'exemple d'un café. Lorsque je bois un café, Il faut attendre au moins 30 à 40 minutes avant que la caféine commence à passer dans mon sang et elle commence à avoir son effet stimulant. Pourtant, quand j'ai bu un café, j'ai l'impression qu'immédiatement, je me sens plus en éveil, je me sens plus prêt à travailler, prêt à stimuler, tonifié. Qu'est-ce qui vous tonifie ? C'est la saveur amère et la puissance et l'intensité du café. L'amertume qu'on peut trouver dans un café, mais dans d'autres produits, comme une liqueur amère ou comme un cocktail ou comme un spritz, c'est ce caractère qui prend en otage notre volonté d'être en éveil, d'être en alerte face à l'amertume.
Il y a des sodas parfumés aux plantes amères qu'on appelle tonic ou tonic waters. Est-ce à dire qu'ils ont un effet vraiment tonifiant sur le plan médicinal ?
Alors, tonifiants, ils sont parfois, on dit fortifiants, parfois éveillants. C'est vrai que ça réveille immédiatement ce petit réflexe inné dont on a parlé, qui, dans le cerveau, se manifeste par un réveil de notre système d'alerte. Mmh. On est plus éveillé. Et au même titre qu'on aime associer des épices dans notre nourriture qui piquent, on aime se mettre en danger avec ces épices, on aime aussi l'amertume, parce qu'elle nous permet de nous mettre en danger sans vraiment de risque. Et c'est là tout le jet, tout le trait, à mon avis, de curiosité. C'est vraiment très humain d'aller chercher dans l'alimentation, dans l'environnement, des éléments qui nous mettent en danger dans l'aspect gustatif, qui étendent notre sensorialité sans prendre aucun risque.
Dans quelle famille d'ingrédients, d'aliments, justement, on retrouve cette amertume ?
Les amers, si on regarde juste du point de vue chimique, il n'y a pas d'unité chimique, il y a plein de molécules différentes. Ça peut être des alcaloïdes fabriqués par les plantes, ça peut être des ions minéraux, ça peut être des composés qui sont liés à des acides aminés. On voit que ça peut être donc produit par les plantes, ça peut être produit par la cuisson. Un caramel un petit peu trop caramélisé, qui a noirci un petit peu, devient un petit peu amer.
Ou un café un peu trop torréfié.
Ou un café un peu trop torréfié. Là, pareil, on retrouve cette note d'amertume qui est typique du café. On va retrouver ça aussi dans des produits fermentaires où les bactéries vont casser et détruire certaines protéines. C'est le cas du fromage. Notre Saint-Marcellin, il a cette petite touche amère parce que cette fermentation et cette croûte fleurie permettent de générer des composés un petit peu amers qu'on va retrouver dans le Saint-Marcellin, mais aussi dans le camembert, par exemple.
On trouve souvent aussi des notes amères ou une finale amère dans certains fruits de mer, comme dans certaines huîtres, par exemple. Une amertume qu'on pourrait presque qualifier d'un peu métallique.
Alors, on a une hypothèse sur les huîtres. Il semble qu'il y a certaines huîtres qui sont plus amères que d'autres, d'ailleurs. Et ce serait la présence de certains acides aminés. L'huître est très riche en acides aminés. Certains contribuent à l'umami et d'autres stimulent un petit peu l'amertume. Ça touche du doigt aussi le fait que ces composés amers, on voit bien qu'ils ne sont pas forcément toxiques. Et dans l'amertume, il y a à la fois des composés qui peuvent être dangereux pour nous. On sait que, par exemple, la strychnine, un composé extrêmement toxique qui peut neutraliser notre système nerveux, c'est un composé qu'il ne faut pas absorber. Et c'est très amer. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de composés amers qui sont aussi bons pour notre corps. Je pense à des composés antioxydants, des polyphénols du vin par exemple, qui sont un petit peu amers, mais aussi des composés anti-inflammatoires. Je pense par exemple à l'écorce de saule dont on extrait la salicyline, qui est un précurseur de l'acide salicylique, de l'aspirine, qui est très amer. Pensons aussi à d'autres antiparasitaires qu'on connaît, l'artémisine, l'amarogentine, c'est ce composé qu'on trouve dans la gentiane, qui a des vertus antiparasitaires. Donc l'amertume, on la rejette, mais en même temps, elle est la garante peut-être aussi de certains composés qui sont bons pour notre santé. Là, on touche du doigt une découverte assez récente, c'est que on sait que les récepteurs à l'amertume sont portés par des cellules qui sont au niveau de nos papilles. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était le seul endroit où on avait des capteurs de l'amertume. Il s'avère qu'en cherchant un petit peu, il y a des chercheurs qui ont découvert, entre il y a 10-15 ans, que ces récepteurs à l'amertume, on en trouve dans d'autres organes, et en particulier dans l'estomac, dans l'intestin et même dans les poumons. Donc quand on prend un objet amer, non seulement on a une dimension sensorielle consciente de l'amertume, mais en plus de ça, on va jouer sur des capteurs qui sont au niveau de l'estomac. Et quand on les stimule, ces petits capteurs de l'amertume dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe ? On va relaxer l'estomac, on va faire ce qu'on appelle une accommodation, une augmentation un peu de son volume, on va ralentir la vidange gastrique. Et en fait, ça permet de préparer l'estomac à un repas qui va être copieux. Et un café après le repas, ça a des vertus intéressantes puisque ça va modifier aussi un peu des paramètres de notre métabolisme. En particulier, ça va prévenir, réduire un peu le pic de glucose qu'on va avoir dans notre sang à l'issue du repas. Puis, du point de vue gastronomique, elle a une vertu phénoménale, c'est que c'est une des saveurs les plus intenses en fin de bouche. C'est une saveur qui met du temps à démarrer en bouche, mais qui occupe toute la finale de bouche et donc qui contribue à la persistance du plat. D'où l'importance d'apprivoiser, d'assembler l'amertume avec d'autres dimensions, d'autres saveurs, d'autres éléments aromatiques pour accompagner cette amertume, pour ne pas la laisser toute seule. Pris isolément, c'est pas bon, mais avec d'autres saveurs, c'est extrêmement équilibré.
Saveurs savantes sur France Inter.
Alors là, on va se bander les yeux. Là, je vais ouvrir une boîte. Et là, vous allez venir chercher quelque chose. Vous prenez et vous mettez dans la bouche.
Non. Ah. On dirait du charbon.
J'aime vraiment pas.
J'aime pas.
J'aime pas.
Ça doit être une noix.
J'ai l'impression en fait de manger du carton.
C'est ça picote, c'est amer.
C'est pas agréable dans la bouche ?
Non, pas du tout.
C'est amer, amer, très très amer.
C'est un peu sucré mais salé et je déteste.
Oh, oui. Moi aussi, j'aime pas.
Oh. En tout cas, vous faites la grimace, hein. À votre avis, il a quelle couleur cet aliment ?
Noir.
Bravo. Pourquoi tu dis qu'il est noir ?
Ça sent que c'est noir, ça sent... Ça, je sais pas pourquoi, mais ça sent que c'est le noir.
Alors, enlevez les bandeaux.
C'est quoi ?
C'est de la réglisse, mais de la réglisse pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose, c'est pas un bonbon à la réglisse. C'est vraiment de la réglisse qui est pure, et la réglisse est une racine. Et effectivement, c'est une racine qui est à la fois un peu sucrée et un peu amère, comme tu l'as dit. Okay. C'est amer. C'est pour ça que ça vous fait faire la grimace.
Amère ?
Gabriel Lépouzet, comment ressent-on l'amertume dans notre corps ? Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes qui nous poussent à percevoir ces saveurs amères ?
Comme pour les autres saveurs, on a des petites papilles qui ont à leur surface des récepteurs. Et contrairement aux autres saveurs principales, le récepteur de l'amertume a une caractéristique, c'est qu'il existe au nombre de 25 exemplaires. Autant l'acide, le sucré, l'umami et le salé sont activés par un seul récepteur respectif, autant l'amertume est capable d'avoir une palette de 25 récepteurs différents.
Ah bon ?
Donc on a une sensibilité qui est très forte, et en plus on a des seuils de perception très faibles. C'est-à-dire qu'une molécule amère est perçue 100 à 1000 fois mieux qu'une molécule acide ou une molécule sucrée.
Incroyable !
Cette sensibilité à l'amère, on la comprend dans la logique de percevoir potentiellement des objets toxiques, mais ça veut dire que c'est un aliment, un ingrédient qu'il faut manipuler avec précaution pour pas aller au-delà de seuil de perception et d'appréciation.
On a le sentiment aussi que les enfants sont beaucoup plus sensibles à l'amertume. En clair, la détestent. On apprend par exemple à aimer les endives, contrairement aux adultes qui peut-être ont appris dans leur éducation du goût à l'apprivoiser cette saveur amère.
Première source de différence, effectivement, l'état de développement de la personne. On voit qu'un enfant et un adulte ne sentent pas l'amertume parce que leur composition de la salive n'est pas la même. C'est le véhicule des ingrédients, des aliments, des saveurs. La salive des enfants a un peu moins de protéines. Du coup, ils vont percevoir l'amertume avec un peu plus d'intensité. Du coup, n'accablons pas nos enfants en leur disant « c'est pas amer, tu peux le manger ». Non, l'enfant, lui, a des seuils de sensibilité un peu plus forts, 5 à 10 fois plus fort parfois, et c'est pour ça qu'il peut faire une grimace, alors que nous, ça nous paraît convenable.
S'il fallait donner un conseil aux parents qui nous écoutent pour sensibiliser leur progéniture, justement, aux saveurs amères, est-ce que vous auriez une stratégie, Gabriel ?
Ne jamais laisser l'amertume toute seule, toujours essayer de l'accompagner. Un bon exemple, c'est le chocolat. Les enfants adorent le chocolat, très tôt, ils sont sensibilisés à ça. Le chocolat, petit à petit, si on monte dans le pourcentage de cacao, on va monter à des niveaux d'amertume aussi qui augmentent. Et si on le challengeait les enfants, et si on les sensibilisait à des chocolats qui sont un petit peu plus amer, mais avec l'assurance du sucre qui est derrière. Autre astuce, ne jamais laisser l'amertume toute seule, c'est-à-dire que si on offre un ingrédient qui est un peu amer, prenons par exemple un chou, un brocoli, des épinards, des choux de Bruxelles.
Une chicorée,
par exemple. Il ne faut pas que les enfants commencent à associer le rejet de l'amertume avec le rejet de l'aliment. Il ne faut pas associer l'aliment avec l'amertume. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'habiller cette amertume avec d'autres éléments. Je prends un exemple. Un brocoli, je vais essayer de le servir avec une petite sauce qui va accompagner cette fin de bouche amère avec d'autres saveurs qui sont aussi dans la fin de bouche, de l'umami par exemple, apporter un peu de gras pour apporter de confort de la bouche, et puis par exemple apporter des éléments aromatiques qui vont apporter une persistance aromatique qui va se superposer à la persistance des saveurs, à la persistance de l'amertume. Une petite sauce que je fais à mes enfants, une petite vinaigrette avec un petit peu d'huile de sésame pour apporter une dimension aromatique très persistante, un peu de sauce soja à la place du sel, une huile de colza, pas une huile d'olive parce que justement elle est un petit peu amère, un peu ardente, et puis une petite touche de vinaigre, et les enfants se régalent, et ils ne sont pas laissés tout seuls avec de l'amertume, ils sont accompagnés dans un acte qui est interactif et dans lequel ils prennent du plaisir à manger un objet qui est amer.
Gabriel Lépouzet, on a compris que les enfants étaient plus sensibles que les adultes à l'amertume, notamment pour des raisons physiologiques. Est-ce que entre adultes, on est tous égaux devant l'amertume ?
Là, on touche un deuxième paramètre qui est important, c'est le paramètre génétique. Est-ce que génétiquement on est tous identiques ? Non. D'autant plus qu'on a 25 capteurs de l'amertume différents. Et pour vous démontrer ça, on va faire un petit test ensemble.
Ah non.
à un petit test amer.
Agréable, j'espère.
Mais un amer plaisant.
Ah.
Je vais, dans un petit tube, chercher une petite bandelette de papier qui a été imprégnée d'une molécule amère. Cette molécule amère, elle est capable d'activer un seul des 25 capteurs de l'amère. Et ce capteur de l'amère précis, qui s'appelle TAS2R38, ce capteur, il existe sous différentes versions. Un petit peu comme un logiciel qui existe en différentes versions. Il y a une version qui marche bien et une version qui ne marche pas bien. On parle de variants, nous, en génétique. Et papa et maman nous ont donné chacun une copie de ce variant. Et certaines personnes ont le variant qui ne marche pas. Et certaines personnes ont le variant qui fonctionne. Alors François-Régis, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas?
Alors voyons voir. Alors vous venez de sortir d'un petit tube avec ce que l'on pourrait qualifier de pince à épiler. Une languette que je tiens dans la main. Je la mets tout simplement sur ma langue.
Et plutôt devant aussi.
Devant.
Pour vous montrer que cette saveur amère, finalement, elle existe aussi quand on met quelque chose d'amère à l'avant de la bouche.
Et cette languette pourrait donc activer le récepteur qui porte quel joli nom?
TAS2R38.
Gabriel Lépouzé, désolé de vous décevoir, mais cette languette, pour moi, ça a un vulgaire goût de papier, mais je ressens rien.
Eh bien, moi non plus. Et il s'avère qu'à peu près la moitié de la population française ne perçoit pas cette amertume. Nous, on l'évalue bien en cours, à l'école du nez par exemple, on a à peu près la moitié de l'assemblée qui ne perçoit rien du tout, alors que l'autre moitié de l'assemblée va trouver une amertume qui est plutôt repoussante, qui fait penser à un médicament ou à un produit dans ce genre. Et en fait, cette molécule-là appartient à une famille de molécules qu'on trouve beaucoup dans les choux, le brocoli, le chou de Bruxelles. Et ces sensibilités à l'amer du chou et des brassicacées en général fait que certaines personnes peuvent aimer et d'autres moins. Elles aiment moins parce qu'elles sont plus sensibles à l'amertume.
Mais il y a effectivement des mangeurs qui trouvent le chou légèrement amer, alors que moi j'aurais tendance à trouver le chou plutôt sucré, rond.
Derrière ça se cache le paramètre génétique. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'amertume. Et de manière générale, dans le goût, on voit que la saveur amère, parmi les cinq saveurs, la saveur amère, c'est celle qui montre le plus de variations d'une personne à une autre.
Comment s'appelle ce composé, présent notamment dans le chou?
La composé qu'on a mis sur cette languette de papier s'appelle du phényl-thiocarbamide. C'est un composé de synthèse qui n'existe pas dans la nature. Mais les plantes fabriquent des composés qui sont très proches, qui sont de la famille des thiocyanates, des thiourées.
Thiocyanates, thiourées, voilà pour le jargon scientifique. Mais les mots « amer » et « amertume » sont aussi lourds de sens dans le langage courant. Notre linguiste Aurore Vincenti les a sur le bout de la langue.
Amer.
L'amer, c'est la saveur mal aimée de notre langue. Nous l'avons associée spontanément à un monde d'émotions perçues comme négatives et issues de la théorie antique des humeurs. Vous savez, la bile, liquide sécrété par le foie, marquée par une amertume prononcée, est représentée par le grec « colé » et par la racine indo-européenne « fel ». Les mots « mélancolie », colère et fiel renvoient à autant de liquides amers qui coulent dans nos vaisseaux, nos conduits, nos canaux, au point de nous submerger complètement. Alors, quand on parle cuisine et papilles, on ne pense pas forcément à la saveur de nos émotions. Et pourtant, la langue française suscite spontanément cette corrélation avec la très littérale amertume qui passe de la bouche au cœur. On dit encore parfois, en quelques lieux, d'une personne qu'elle est amère comme du chicotin. Le chicotin, c'est le suc amer de certaines plantes, n'hésitez pas à adopter l'expression. Alors l'amertume, que dire de ce mot ? Bah, qu'il désigne la rancœur, la douleur, le chagrin. Et c'est sans doute la saveur primaire qui est la plus directement liée à un univers symbolique et émotionnel, et ce, dès les premiers emplois du terme au XIIe siècle. Heureusement, on sait combattre le mal par le mal, et la gentiane, la suze et le campari, avec modération, cela va sans dire, sauront nous consoler de nos chagrins. Constat d'échec, ce n'est pas du français que nous viennent nos mots les plus laudatifs qui entourent cette saveur. On retrouve parfois, en français, le mot germanique « bitter », si vous parlez anglais ou allemand notamment, mot qui nous fait rêver un univers de liqueurs et de bières et qui a littéralement du mordant puisque sa racine a aussi donné le verbe « to bite », mordre. Mais notre grande gagnante sur le sujet de l'amertume, c'est la langue italienne. Pourtant pas si lointaine de la nôtre par ses racines également latines, elle sait rendre hommage à la mer et faire rimer « amaro » et « amore » amer et amour, bien sûr dans un joli jeu de sonorité. Je me permets de suggérer qu'amaro, c'est aussi pour la douceur du R, roulé à l'italienne, ou bien encore parce que la mère en Italie, c'est aussi la mamma à qui on doit beaucoup en cuisine. En tout cas, c'est un univers de plaisir qui entoure ce goût, que l'on croise là-bas un peu partout, et dès les premières lueurs du jour, avec le café serré, le fameux ristretto, le foisonnement de salade qui attrape la langue, de la roquette qu'on connaît bien à la puntarella qu'on connaît moins, et ça se traduit par une palanquée de dérivés aux tonalités souvent affectueuses, parfois plus sombres, du mot amaro. Amarotico, plutôt amer, amarognolo, légèrement amer, inamarire, devenir amer, amarissimo, très amer, amaramente, amarezza, amarume, amaricare, amarino, amarone, amareggiare, et bien sûr amaretto, nom d'une liqueur et d'un biscuit que nous retrouvons dans nos dicos franco-français. 50 nuances d'amertume, parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors, pour être honnête, on a bien tenté en français ancien l'emploi du verbe amertumer, pour rendre amer, mais ça n'a pas duré. On s'est contenté de quelques dérivés péjoratifs et de mots savants aux racines obscures. Saviez-vous que le mot picrate, qui est un terme de chimie employé pour désigner un explosif et dont on se sert encore de nos jours pour parler d'un pinard qui arrache la tronche, mais à ce mot, il vient de l'élément picro, amer, issu du grec picros, persan. Pour le côté positif, on a fait confiance à l'Italie qui nous a transmis le marasquin, liqueur de marasca, nom italien donné à une cerise aigre, et la merise, mot valise qui relie amer et cerise, qui est donc cette petite cerise sauvage nommée amarella ou amarena. Si je vous parle d'alcool, de liqueur, de fruits à liqueur, ce n'est pas parce que je suis particulièrement portée sur la bouteille, mais c'est qu'il faut bien se rendre à l'évidence que ce que nous retenons de positif en français à ce sujet, c'est la mer à boire.
Saveur savante sur France Inter.
Gabriel l'épousait, certaines civilisations culinaires sont plus ouvertes, plus réceptives à la saveur amère. Vous voyez où je veux en venir, notamment les Italiens qui adorent l'amertume, les herbes et les salades amères, le café évidemment, la passion de l'artichaut, les liqueurs, les cocktails amers. Est-ce que ça veut dire que les Italiens sont mieux équipés que nous dès la naissance à supporter, apprécier, accepter cette amertume? Ou est-ce que c'est finalement le résultat d'une éducation? C'est un fait culturel?
Je pense que c'est surtout très culturel, c'est une culture qui s'est intégrée dans l'alimentation et du coup qui se propage de génération en génération. Mais curieusement, quand cette culture n'est plus transmise, ça disparaît. Et beaucoup d'Italiens ont émigré d'Italie pour aller vers d'autres pays, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine par exemple. Et curieusement, on retrouve pas trop dans ces pays-là cette culture de l'amertume. Pour moi, je pense que l'amertume, elle est liée à la cuisine propre de l'Italie, mais aussi à son sol, à sa capacité à générer des aliments, des plantes, des ingrédients qui sont amers, et que l'Italien, avec aussi sa cuisine pauvre, sa cucina povera, a cherché à adopter des ingrédients qui sont au bord de la route, une chicorée, un élément, une plante, et a appris, par le travail culinaire, à amadouer cette saveur-là pour faire des plats qui sont aujourd'hui de la référence.
Tout tes questions d'équilibre, finalement, faire cohabiter l'amertume avec d'autres saveurs qui vont l'atténuer, la contrebalancer, l'équilibrer.
Exactement. L'amertume a cette vertu, c'est qu'elle peut être, au même titre que d'autres saveurs comme l'acidité, elle va interagir avec d'autres saveurs. Toute seule, elle peut être agressive, mais quand on la met avec du sucre, par exemple, elle va être perçue moins forte. Qu'est-ce qui peut aider à diminuer l'amertume pour la rééquilibrer? Le sel, le salé. Le fait de mettre un peu de sel sur une endive, de cuisiner une endive par exemple dans une sauce un peu salée. On pense bien sûr à ces endives cuisinées dans une sauce un peu fromagère avec du jambon fumé autour. Ben voilà, le fait de mettre du sel, ça diminue l'amertume. Et pareil, là, avec le jambon, on apporte le jambon fumé par exemple, on apporte une touche de persistance aromatique qui va accompagner et prolonger la persistance en bouche et pas laisser l'amertume toute seule.
Et puis il y a le fameux champ gustatif et culinaire des saveurs douces amères. L'amertume, rééquilibrée justement par le sucre, la rondeur, la douceur. L'exemple emblématique et très estival, c'est ce fameux cocktail au succès mondial, le Spritz, caractérisé effectivement par de l'amertume, mais également par un peu de sucre quand même.
Et c'est tout l'art aussi d'amener l'amertume au pays des desserts. C'est de la dompter, de l'apprivoiser pour lui permettre de prolonger le plat. Je pense que ce point dessert, c'est extrêmement intéressant de pouvoir prolonger le mets, de prolonger la perception sensorielle. Il faut comprendre aussi que l'amertume, finalement, elle a cette dimension de persistance, mais aussi cette amplitude gustative. Elle donne de l'éveil au plat, elle donne de l'énergie, elle donne de la profondeur, elle donne de la persistance. Et ça, pour un dessert, ça va vraiment contrebalancer le sucre qui peut être vite saturant et vite un peu lourd.
Globalement, on a tendance à se méfier de l'amertume. On le voit d'ailleurs dans l'évolution de notre alimentation moderne. La sélection des légumes, les semences modernes, globalement, ont cherché à chasser cette amertume. Une endive aujourd'hui est beaucoup moins amère qu'une endive il y a 100 ans. En revanche, dans le milieu des cocktails, l'amertume est vraiment recherchée, plébiscitée, sollicitée. On aime l'amertume. Il y a des cocktails emblématiques, le Spritz, le Negroni, qui revendiquent cette amertume. Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'on redécouvre l'amertume pour justement son caractère à la fois un peu terrien, ce caractère qui nous ramène aux plantes, qui nous rappelle finalement une origine du lieu, du produit. Ça nous amène à ce côté tonifiant, un peu médicinal, bon pour le corps. Et tout ça ensemble fait que le caractère amer, c'est une saveur qui est initiatique de toute manière. Donc on a envie de s'initier, de se confronter à une saveur qui peut nous apprendre des choses sur le goût. Et qui a beaucoup de persistance. Finalement, un cocktail qui est amer, je vais peut-être prendre moins de temps à l'avaler qu'une bière toute simple qui n'est pas du tout amère ou qu'un soda qui ne le serait pas. Donc, l'exercice dans le cocktail, c'est de proposer une amplitude gustative qui va durer longtemps au même titre qu'un vin.
L'amer à boire dans un verre de vin ou dans un cocktail. Je vous propose de rendre visite à Margot Le Carpentier. C'est l'une des créatrices de cocktails les plus en pointe de sa génération, derrière le comptoir de Combat, son bar situé en plein quartier Belleville à Paris. Les liqueurs amères, bitter pour les anglo-saxons, amari pour les italiens, sont pour elle une vraie source d'inspiration. Car sur la scène cocktail, l'amertume reste la saveur star.
Star depuis toujours, en particulier parce que le cocktail a toujours été un peu plus populaire dans des pays anglo-saxons et italiens où le palais est beaucoup plus habitué à l'amertume. En France, le cocktail est en retard. J'ai l'impression comme l'amertume y est un peu en retard aussi.
Et vous, en tant que bartender, c'est quoi votre rapport à l'amertume ? Vous l'avez apprivoisé ? Vous l'avez domestiqué ? Ou vous l'avez toujours aimé ?
Non, moi, l'amertume, moi, comme tous les enfants français, j'ai l'impression que, voilà, on tire la langue, on dit Burke. Et en fait, dans le milieu du bar, il y a aussi cette fierté à aimer les breuvages puissants et amers. Donc, il y a un peu ce truc aussi où, voilà, faut pas se dégonfler. Moi, j'aime l'amertume, j'aime le Campari, j'aime les amers et les bitters. Et en fait, j'ai fait partie, évidemment, de toute cette salve de bartender, en fait, à apprendre à maîtriser l'amertume, à parfois un peu trop la sucrer pour la balancer. C'est, au final, c'est une éducation du palais. Et moi-même, je me suis surprise à l'aimer, l'adorer, la manier. Et comme beaucoup de bartenders, finalement, à avoir pas mal d'avance sur cette amertume et sur cet amour de l'amertume parce qu'on la manie peut-être beaucoup plus de façon liquide.
Là, vous avez sorti vos cartouches ?
Ouais.
C'est quoi ?
Les vermouths amers. Je pense au Cynar, au Puntemes. Après, on arrive aux Amari purs et durs. Des infusions où le héros est plutôt la rhubarbe ou l'artichaut. Voilà, les liqueurs de gentiane, évidemment.
La Suze.
Suze, Salers aussi. Ensuite, voilà, je pensais à pas mal de liqueurs qui vont utiliser la noix ou la coriandre. Et voilà, on va tirer sur quelque chose de plus sucré parce qu'on est vraiment proche de la liqueur. Mais au final, il y a quand même une amertume à la française, plus légère, plus sucrée. Mais en fait, l'amertume, elle se trouve tout autour de nous, dans plein d'ingrédients. Et en fait, vraiment le travail du bartender et du mixologue, comme on l'appelle, va être de travailler, d'extraire cette amertume, par infusion, sirop, shrub, teinture. Il y a vraiment des milliers de façons de travailler. Et voilà, pour extraire cette amertume et la traduire sous forme liquide.
Bon, et si je vous demandais là, tout de suite, d'exprimer l'amertume ?
Création, c'est parti alors. Alors, je commence avec...
Du houblon ? Vous allez me faire une bière ?
Ben, un peu. En tout cas, il y aura les esprits un peu chanvre, houblonné d'une bière.
Ça sent une substance illicite, comme si on était dans un coffee shop à Amsterdam, non ?
Exactement. On croirait que j'ai une plantation de chanvre dans le bar, mais pas du tout. Je la camoufle.
Mais c'est la même famille en même temps, houblon et cannabis, hein, je pense.
Exactement. Oui, c'est de la même famille. C'est un petit bébé artichaut, je dirais. C'est tout petit, c'est une sorte de petit bourgeon. Et en fait, pour les brasseurs, ça se présente sous forme de granulé, vraiment le granulé qu'on donne aux animaux.
Et là, en l'occurrence, vous avez extrait comment cette saveur ? Vous avez fait une infusion ?
J'ai juste fait infuser. Je crois que j'ai fait une infusion de 8-12 minutes maximum.
Dans quel liquide ?
Dans du gin. J'ai bien filtré à travers un super bag ou un filtre à café. En fait, on en ressort quand même quelque chose d'assez trouble et jaune fluo, quoi. Assez joli.
Qu'est-ce que vous allez faire avec cette infusion de houblon au gin ?
Alors, j'ai envie de faire un cocktail rafraîchissant, pétillant, un long drink, comme on dit. Donc alors, je le commence. Je prends Un long drink, alors, c'est un verre sur glace, un petit peu les verres qu'on utilise pour le gin tonic. Je vais commencer directement par mon garnish. Le garnish, c'est la décoration. C'est toujours important d'y penser. Une longue tranche de fenouil que j'ai coupée à la mandoline. Donc, elle est insérée tout le long du verre. Donc, on la voit par transparence. Ça fait un peu une petite dentelle de fenouil. J'y ai inséré les glaçons pour la bloquer. Donc, j'ai des gros glaçons, des cubes pleins, comme on appelle ça. Et donc, je commence par mon gin. J'en mets 30 millilitres.
Une petite dose ?
Ouais, doucement. Verjus de raisin. Donc, du verjus, c'est un jus de fruits qui n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire qu'on va prendre le raisin quand il est encore du raisin vert, en fait. On va le presser et obtenir ce jus très, très acide. Et ça permettra d'avoir une acidité différente des agrumes et d'avoir une acidité que comment la définir ? Elle est plus cristalline, selon moi.
Une dose de verjus.
Pour aller encore plus vers le côté végétal, vert du houblon, j'ai décidé de travailler la fenouillette. C'est une liqueur faite par la Maison de Noix à Brive-la-Gaillarde. Et c'est une liqueur de fenouil qui est vraiment excellente. Je m'empêche de la travailler partout tellement c'est bon. Et là, c'est 15 millilitres, donc la moitié des doses précédentes. Ensuite, je travaille le Dolin blanc. C'est un vermouth, ce qu'on appelle communément le martini blanc. Et j'en mets 10 millilitres.
10 millilitres.
C'est ça. Et j'ajoute quelques gouttes de solution saline qui va vraiment équilibrer le cocktail. Et là, je rajoute des glaçons. Et je tope avec un petit peu d'eau gazeuse. Ensuite, on remue le cocktail. Et voilà, c'est ça. Il est comme ça.
Je peux goûter ?
Bien sûr.
C'est à la fois très frais, c'est anisé.
Et l'amertume vient plus tard, non ?
Et l'amertume, elle vient en fin de bouche. Elle est vachement bien maîtrisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est contrebalancée aussi par de la fraîcheur et de l'acidité. Mm-hmm. Incroyable. Il a un petit nom, ce cocktail ?
Le Cascade. C'est le nom du houblon. Et je trouve que, voilà, c'est une... Il a une... Je trouve qu'il a une... Il est long, il est en longueur. C'est une belle cascade, non ?
Appelez le barman, je vous prie.
James Bond, dans Casino Royale, Martin Campbell, 2006.
Martini Dry.
Oui, monsieur.
Attendez. 30 jours de Gordon's, une de vodka, une demi de quinalilé au shaker, servez glacé avec un zeste de citron très fin.
Bien, monsieur.
Attendez, apportez-moi un aussi.
À moi aussi. Servez-moi un aussi, sans le fruit.
Ça y est.
On peut jouer au poker maintenant ?
Quelqu'un est pressé.
Il y a le quinalilé, cet apéritif à base de vin et de quinine qui apporte un mordant amer aux vespères de 007. Et puis il y a une autre liqueur, un peu moins sexy celle-là, que j'aperçois sur les étagères de combat, le bar à cocktail de Margot le Carpentier. C'est le Fernet Branca.
Ouais, c'est marrant, c'est le truc imbuvable où c'est souvent plein de gens savent pas trop à quoi ça correspond. C'est le truc qu'il y a dans tous les bars sur une étagère, mais qui prend la poussière en fait. Alors que dans les bars, pas du tout. Je pense que le Fernet Branca chez les bartenders, c'est très très utilisé. On le boit en shot dans pas mal de bars, en tout cas parisiens et dans le monde entier. Et le Fernet chez nous, à combat comme dans beaucoup de bars à cocktails, il est très utilisé, souvent en dose homéopathique. En fait, on l'utilise comme un bitter finalement.
Et vous pouvez m'en donner une courte définition ?
Le Fernet Branca, c'est la définition de l'amaro un peu mentholé. Donc très très épicé, on va moins aller sur l'agrume. Là, on va aller vers les épices et tout ce qui est girofle ou épices médicinales. C'est vraiment très 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 médicinal. C'est un petit peu le Jägermeister, mais de bonne qualité. Mais la recette, en fait, elle est gardée secrète, comme pour beaucoup de spiritueux.
Et ça date d'il y a longtemps, quand même, le Fernet Branca ?
1845, dit la bouteille.
Inventé à Milan.
C'est ça. Plus italien, tu meurs.
Plus italien, tu meurs, le Fernet Branca. Et oui, elle est amère à mort, cette liqueur qui fut longtemps cachée dans le buffet des grands-mères. Et en particulier une grand-mère, la nonna de François Cavanna, cet écrivain, journaliste et dessinateur aux origines transalpines. Dans le premier volume de son autobiographie, Les Ritales, publié en 1978, Cavanna raconte avec truculence le goût de cette foutue liqueur. C'est un texte interprété par Lou Lefebvre.
Le Fernet, c'est la potion magique des grands-mères. Quand tu vois un môme passer, grave,
rasant les murs à cause des bousculades et portant comme le Saint-Sacrement un verre qu'il protège de son autre main étendue par-dessus, bien à plat contre les chutes de poussière. Un verre à demi plein de Fernet Branca qu'il vient d'acheter pour 10 sous chez Madame Lotti, le produit d'Italie de la rue Paulbert. Alors tu te dis, tiens, sa nonna qui a encore le mal de ventre. Le Fernet Branca est souverain contre le mal de ventre, aussi contre le mal de tête, contre le mal du froid, contre le mal des bonnes femmes qui les prend tous les mois, que des fois ça les rend vraiment méchantes, contre tout. Le Fernet, c'est une invention que tu peux même pas imaginer comme elle est utile. Et rien que du naturel, attention. Personne ne peut l'imiter, impossible. Parce que c'est fait avec des plantes secrètes, qui poussent seulement en Italie, dans la montagne. Et il faut les cueillir au bon moment, quand la lune et les astres sont juste comme ils doivent être. Ça arrive une fois tous les 7 ans. En même temps, il faut dire la prière secrète et faire les signes. Et si c'est pas un Italien qui les cueille, ça marche pas. Ça guérit rien du tout, et même ça t'étouffe. C'est les frères Branca qui l'ont inventé. La Madonna leur est apparue, elle leur a dicté la formule et montré l'endroit. Il y a leur signature sur la bouteille. Si c'est pas juste exactement la bonne signature, c'est pas du vrai Fernet. Et si t'en bois, tu vas en prison. Autour de la signature, il y a plein de médailles en or qu'on leur a données dans le monde entier, tellement qu'ils ont fait du bien à des tas de gens malades. Et sur l'étiquette, il y a encore un aigle qui vole en l'air et qui emporte le monde dans ses pattes. C'est pour dire que l'aigle est le plus fort de tous les oiseaux. Parce que le monde, c'est lourd, tiens, vachement. Et le Fernet, il est pareil, comme l'aigle. Si tu le bois, tu deviens fort pareil. Ecco. Les Français, ils disent « c'est quoi cette saleté ?» Ils goûtent et ils crachent. Et ils toussent. Et ils se frottent la langue avec le mouchoir. Et ils gueulent que cette saloperie dégueulasse va les faire crever. Ça doit être fabriqué avec du jus de leur putain de cigare toscan tout noir, tout tordu, mis à macérer dans la chiasse de tigre. Faut pas être normal, pas civilisé pour se taper ça. La nonna est sûrement bien malade pour avoir le courage de l'avaler. La nonna fait la langue pointue, plisse les yeux et lape son fernet à petit lapement de chat en geignant « Oi me che mi do il è la pancia, non so cosa fatto al signore » entre chaque trompette de langue. La nonna est une vieille hypocrite. Son œil rigole de gourmandise et se cligne à lui-même dans le noir fernet aux chauds reflets de goudron fondu. Le mal de ventre ravage les nonnas. Tiens, mon chéri, va m'acheter 10 sous de fernet chez Madame Lotti. Oi me che je souffre. Fais vite, mon petit lapin. Tu diras rien à la mamma, hein, que se ferait du mauvais sang. Tu comprends? Tu diras rien, hein? Tiens, encore un sou. Tu t'achèteras 2 caramels.
François Cavanna, Les Ritals, 1978.
Pour moi, point courage. Ou dis-moi où t'es, dis-moi.
Un morceau de blues cuisiné à la sauce créole, Aléa de Delgrès.
France Inter, saveur savante, François-Régis Gaudry.
Gabriel Lépouzet, on mange beaucoup d'olives à l'apéro. Mais alors quand on mange une olive, qu'on la cueille sur l'olivier, elle est immangeable tellement elle est amère. Et dans le bol de l'apéritif, en revanche, elle est carrément douce. Pourquoi il n'y a plus d'amertume ?
Alors là, c'est là tout l'art de fabriquer des olives. C'est un processus qui est long, avec plusieurs acteurs. La première chose qu'on fait, c'est qu'on met ces olives dans des bains d'eau pour extraire cette amertume par diffusion. Vous avez peut-être vu, parfois, il y a des olives même qu'on entaille justement pour faciliter cette extraction de l'amertume. Ces bains d'eau sont renouvelés tous les jours pendant 10 à 15 jours pour rincer cette amertume. Et ensuite, on va avoir une étape de fermentation avec des bactéries qui vont faire une fermentation lactique, comme tous les produits fermentés, lacto-fermentés, qui va aussi participer à la réduction de l'amertume. C'est vrai pour les olives, mais on voit que c'est aussi très bien le cas pour des citrons confits, par exemple, qu'on va transformer, dont on va réduire l'amertume par la lacto-fermentation. Et à noter encore que, à la fin, le sel qu'on introduit dans la saumure va aussi participer à réduire l'amertume, puisqu'on sait que le sel est un bon réducteur de l'amertume.
Comment une olive très amère sur l'arbre devient très douce dans le bol de l'apéro?
Et tout l'art et le travail de l'homme qui se cache derrière une olive.
Et si, dans notre cuisine, on réhabilitait l'amertume, on lui redonnait finalement la place qu'elle mérite?
Il le faut, et puis pour ça, il faut s'armer aussi d'éléments de lecture de l'amertume. Comment on lit l'amertume? On la lit par l'intensité, mais on la lit aussi beaucoup par la temporalité. C'est une saveur qui s'exprime dans le temps, et puis aussi dans le contexte dans lequel je la mets. Une amertume toute seule, elle est jamais très bonne. Il faut l'accompagner, il faut la construire, il faut l'apprivoiser. Je prends souvent un exemple en cours. Une amertume dans une bière, on l'apprécie pour son côté rafraîchissant. Mais si cette même amertume, je le trouve dans un verre de lait, tout de suite, c'est très repoussant. Parce que ça signale certainement une fermentation qui est pas bonne et le lait est en train de tourner. Pourtant, ça peut être des amers qui sont en intensité identique. Donc le contexte dans lequel je mets l'amertume va être décisif. Et une personne qui résume bien ça, c'est une chef 3 étoiles qui opère à Valence, qui s'appelle Anne-Sophie Pic, et qui dit ce texte que j'ai synthétisé de plusieurs de ses entretiens. L'amertume a ça d'intéressant dans le sens où elle prolonge le goût en bouche. Elle donne une amplitude gustative, une profondeur de goût et une complémentarité très intéressante. Si l'acidité est plutôt vive et rapide, l'amertume a ce côté exhausteur et cette capacité très forte à se marier à d'autres saveurs. Lorsqu'elle est associée, elle va prolonger le goût et accompagner la rétro-olfaction beaucoup plus loin que l'acidité. Il faut toujours rééquilibrer l'amertume. Elle nécessite toujours d'être lissée.
Aimer la mer, à condition donc de l'équilibrer. En réalisant par exemple une petite sauce toute simple et délicieuse pour donner du relief à des crudités ou à un carpaccio de poisson. Vous pressez un pomelo dans une casserole et vous faites réduire ce jus à feu moyen jusqu'à obtenir une texture sirupeuse. À l'aide d'un fouet, vous émulsionnez ce jus réduit avec quelques cuillères à soupe d'une belle huile d'olive et une bonne pincée de sel. Cette sauce tonique et nappante affiche un parfait équilibre. Le sel, l'huile d'olive pour l'ardence, le pomelo pour le sucre, l'acide et l'amer. Nos infos pratiques, nos recettes, toutes les références et les podcasts des épisodes de Saveurs Savantes sont à retrouver sur franceinter.fr à la page Saveurs Savantes. Saveurs Savantes est réalisé par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à la préparer. Choix des textes littéraires Stéphane Sollier, prise de son Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufis et Florian Dorimini. Programmation musicale, Djoubaka. Saveurs Savantes, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 4.
Salé.
On se retrouve demain dimanche à 11h pour une rediffusion dont on va déguster sur une cuisine assez portée sur l'amertume, la Cucina Romana. C'est l'été, salivez sur France Inter.